Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Proverbes, au chapitre 5. Proverbes 5, dont nous lisons les versets 15 à 19. Proverbes 5, versets 15 à 19. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle, pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Dans le Cantique des Cantiques, Cantique des Cantiques, chapitre 3, nous avons lu toute une partie du chapitre 2, chapitre 3, donc verset 1 à 4. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Et puis enfin, dans la fin du Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Nous lisons la seconde lettre à l'église d'Éphèse. Donc chapitre 2, versets 1 à 7. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton labeur et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as progressivement abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous abordons donc la neuvième et dernière étape de notre réflexion sur l'harmonie conjugale. Peut-être sera-ce à certains égards un peu plus difficile pour ceux qui prennent le train en cours de route. et qui viennent de nous rejoindre, mais rien n'empêche à Dieu de nous visiter tous ensemble et chacun individuellement au travers de ce que nous allons partager. J'ai apprécié les accents du dernier cantique, centré sur la reconnaissance, la louange à notre Dieu, le souci, c'était là les derniers mots de ce cantique, le souci de vivre pour lui plaire. C'est un peuple d'adorateurs que Dieu demande. La Bible nous dit que Dieu, dans l'Ancienne Alliance, siégeait au milieu des louanges d'Israël. Nous sommes là sur terre pour l'adorer, pour le louer, pour lui rendre un culte, pour lui exprimer de manière tangible, concrète, notre amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes facultés, toute ta force, ta pensée, ton âme, ton esprit, ton cœur. Tu l'aimeras, ce Seigneur. Tu le chériras avec tendresse, dit le roi viril David dans le psaume 18. Ô Éternel, littéralement, je te chéris avec tendresse, dans les premiers versets. Nous sommes appelés à partager avec lui, à prendre le temps de nous asseoir contre son cœur pour l'écouter. Et pour résumer ce que je viens d'exprimer brièvement, existe dans le vocabulaire du Nouveau Testament un petit mot grec, qui d'ailleurs a été francisé pour désigner certaines personnes lorsqu'elles se prénomment, mais c'est assez rare aujourd'hui, Eusèbe. Ce vieux prénom. Et en réalité, il est tiré donc d'un mot grec, le Zébéia, qui est généralement rendu dans le Nouveau Testament par le mot piété. Il y a d'autres termes grecs qui peuvent être rendus par ce petit mot français piété, un mot aussi qui a évolué dans son sens, dans son histoire, qui hélas est parfois devenu quelque peu péjoratif, et c'est bien regrettable. Parce que ce mot est Eusébéia, fait allusion au rapport harmonieux avec Dieu. Entre le croyant et Dieu, ces rapports harmonieux ayant essentiellement deux dimensions. Le respect, ce que la Bible appelle parfois la crainte de Dieu, un profond respect, mais qui peut aller jusqu'au tremblement, du prosternement dans la poussière face à cette grandeur insondable, cette transcendance, comme disent les théologiens, de Dieu, mais aussi l'amour vis-à-vis de notre Dieu. C'est le réformateur Calvin qui donnait cette très juste définition. J'appelle piété, dans le langage de l'époque, hein, il le disait, j'appelle piété une révérence et amour de Dieu conjoints ensemble. Un autre commentateur dira, la piété, c'est l'application de toute sa volonté, de tout son cœur au service de Dieu. Ce n'est pas simplement l'accomplissement des devoirs religieux, mais l'élan d'amour filial qui nous pousse à entretenir une vie chrétienne de qualité. Il y a dans la piété ce mariage harmonieux entre notre vision d'un Dieu qui nous dépasse infiniment et d'un Dieu qui s'est approché de nous, qui est devenu immanent, comme on le dit, qui s'est identifié à nous, qui est entré dans une relation privilégiée avec nous, par ce miracle extraordinaire de l'incarnation. en Jésus-Christ, Dieu nous est devenu infiniment proche, le Dieu infiniment grand, infiniment séparé, tout autre, totalement différent, s'est approché de nous en Jésus-Christ, afin que nous puissions entretenir avec lui une relation de profonde intimité. Il est intéressant de constater que ce petit mot « Eusebeia » figure essentiellement dans les livres écrits le plus tardivement en dehors des épîtres de Jean, qui, elle, alors date de la fin du 1er siècle, mais quant aux autres livres, notamment les épîtres pastorales, l'épître aux Hébreux, la deuxième épître de Pierre, c'est dans ces livres que se trouve essentiellement une dizaine de fois ce petit mot « Eusebeia ». Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce en particulier dans ces livres tardifs qui appartiennent pratiquement au seuil de la deuxième génération de croyants dans l'histoire de l'Église qu'apparaît plus particulièrement ce mot? Et bien, je crois pouvoir le comprendre. Et je souligne que certainement ce mot est mis en évidence à cause du danger croissant avec les années d'une sorte d'intellectualisation de la foi. La croissance du formalisme, des traditions, de l'habitude, de la routine religieuse qui conduisent au relâchement et à la désobéissance. Dieu a utilisé ses rédacteurs inspirés pour le seuil de cette deuxième génération de croyants dans l'histoire de l'Église pour leur dire « faites attention ». Parce que même si l'aube de l'histoire de l'Église, son inauguration est encore toute récente, vous êtes déjà en terrible danger de vous installer dans les ornières de vos prédécesseurs et d'avoir les apparences de la piété tout en reniant ce qui en fait la force. Si nous considérions l'histoire du peuple d'Israël, nous verrions exactement la même chose. Je pense à ce beau texte qui ouvre le prophète Jérémie au chapitre 2, verset 2. « Je me souviens, dit l'Éternel, de ton amour, lorsque tu étais jeune, de ton affection, lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. » Ou encore dans Malachie 1, 2, tant de formalisme terrible qui va obliger Dieu à se taire pendant 4 siècles à cause de cette impudence, cet irrespect, cette effronterie permanente d'un peuple qui est en train d'ailleurs de faire le lit des pharisiens. Les pharisiens seront issus de cette mentalité qui prévaut dans le livre de Malachie, où par exemple, d'emblée au début de Malachie, verset 2 du chapitre 1er, l'Éternel proclame « Mais je vous ai aimé !» Et vous dites « En quoi nous as-tu aimé ?» Et toute la suite de ce livre va être tissée de cette attitude tellement dure, sèche, froide, vindicative, d'un peuple qui n'a plus rien d'un esprit de contentement. Et puis nous avons pris volontairement cette seconde lettre à l'église d'Éphèse, à la fin donc du 1er siècle, pour constater ceci. Cette lettre est adressée 35 ans environ après la lettre de Paul. 35 ans, c'est-à-dire en gros aussi la valeur d'une génération. Et quel est le constat de Dieu lui-même? Voilà une église qui travaille. Même le terme est très fort au verset 2, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas rendu par le mot travail, bien que dans son histoire, dans son origine, En sémantique, comme on dit, le mot travail est un mot latin, vient d'un mot latin, tripalium, et le tripalium était autrefois un instrument de torture. Travail, torture. C'était aussi d'ailleurs une espèce de système à trois pieds qui permettait de bloquer la patte d'un cheval lorsque un forgeron voulait s'occuper de ses sabots. Vous voyez l'évolution de la langue, mais cela donne normalement une idée d'un travail difficile. Il y a eu généralement dans l'histoire du travail toute une connotation de peine, le labeur, le labour. Et ici, le terme utilisé, je connais tes œuvres, je connais ton labour, ta peine, ton travail, ton tripalium. Tu y mets le paquet, tu souffres, tu transpires. Donc une église qui peine, qui accepte de payer le prix, une église qui persévère, ceci revient à trois reprises dans ces quelques versets, une église qui discerne le vrai du faux, qui exerce une saine discipline en son sein, une église orthodoxe, dans laquelle on est certainement champion dans le décortiquage des Écritures. On travaille, on est courageux, on est champion de la vérité. Et heureuses, les églises qui ont ces caractéristiques, je crois qu'elles sont de moins en moins nombreuses, hélas. Et pourtant, il y a ce « mais » du verset 4, ce « mais » incisif, « mais » dans cette église. L'orthodoxie est froide. L'orthodoxie est pointilleuse. On vit une sorte de pathologie permanente. Et le premier amour s'est évanoui. Il fait de plus en plus froid dans cette église. La relation avec Dieu n'est plus la même. Un feu s'éteint peu à peu. Le mariage d'amour devient un mariage de raison. Vous comprenez où nous voulons en venir dans le cadre de l'harmonie conjugale. Le même grave danger menace la vie et l'unité de chaque couple. Même les meilleurs. Perdre le premier amour. Perdre le premier amour. J'ai sous les yeux un témoignage tout à fait profane, tiré d'un mensuel profane. Voilà ce que je lis quand on prend le métro aux mêmes heures pendant des années. On finit par connaître au moins de vue bien des voyageurs. Parmi les usagers de ma ligne de métro, il y avait une jeune et jolie jeune fille qui, à peine entrée dans le compartiment, se plongeait dans un livre et ne le refermait qu'à l'arrivée ou qu'arrivée à destination. Plus d'une fois, elle avait failli oublier son parapluie qu'elle accrochait à la poignée métallique fixée à côté de la portière. Heureusement, il se trouvait toujours un passager pour lui signaler son oubli. Ce parapluie a donné à un jeune homme, qui depuis quelque temps observait avec un intérêt évident la jeune fille, l'occasion d'engager la conversation avec elle. « Vous avez oublié votre parapluie, lui dit-il un jour d'une voix étouffée par la timidité. » Elle lui sourit, et c'est ainsi qu'ils lièrent connaissance. Dans les semaines qui suivirent, je les vis plus d'une fois assis côte à côte, en train de bavarder allègrement. Les mois passèrent, et un jour, je remarquai qu'ils portaient des alliances. Ils étaient cependant devenus bien moins loquaces. Elle avait repris son livre, lui son journal, mais je ne me rendis vraiment compte du changement que le mariage avait introduit dans leur rapport que le jour où elle commit son oubli habituel. « Ton pépin !» lui dit son mari d'une voix sèche. Entretenir le premier amour pour qu'il se purifie, qu'il s'approfondisse tout au long du temps que Dieu nous accordera de vivre ensemble. Pour cela, importance du partage, comme avec notre Dieu. Importance du partage des problèmes, des combats. Importance de l'écoute réciproque pour mieux comprendre et aimer l'autre. Quelqu'un écrit « La faute la plus fréquente me paraît le manque de transparence. Je vois beaucoup de couples. À l'arrière-plan de leurs difficultés, je trouve toujours ce défaut d'ouverture mutuelle, loyale et complète, sans laquelle il ne peut y avoir de vraie compréhension. Un couple qui aura le courage de toujours tout se dire passera sans doute par bien des secousses, mais pourra construire un mariage de plus en plus réussi, tandis que toute cachotterie sera à la fois le signe et le chemin de l'échec. » Et voilà pourquoi cette dernière étude continue à s'inscrire dans le cadre de notre longue réflexion étalée sur plusieurs matinées, la vie dans la lumière. Nous avons prononcé le mot « écoute ». Je crois que je dois consacrer dans mon livre sur Barnabas au moins 2 chapitres à cette question de l'écoute. Écoutez. Écoutez vraiment. Dans un monde qui a tendance à ne plus prendre le temps d'écouter. Et composé d'hommes et de femmes de plus en plus malades, spirituellement, psychiquement, moralement, et qui cherchent, qui vont vers ceux et celles qui écoutent, mais qui, hélas, sont loin d'avoir toujours les vraies solutions aux problèmes profonds. Écouter est un art difficile, écrit quelqu'un. On ne peut pas écouter convenablement ce que dit quelqu'un si on est préoccupé de son apparence ou de l'impression qu'on produit. Si on réfléchit à ce qu'on va dire quand l'autre aura fini de parler, ou encore si on se demande jusqu'à quel point ce qu'il dit est exact, pertinent ou acceptable. Tous ces points ont leur importance, mais seulement après que l'on a écouté les paroles prononcées, car écouter est avant tout acte d'amour. C'est se donner à quelqu'un, se rendre accessible, vulnérable, à ce qu'il dit. Quelqu'un d'autre écrit ceci: pour écouter vraiment, il faut écouter humblement, en sachant qu'on a beaucoup à apprendre. Il faut écouter patiemment, car il faut beaucoup de temps pour comprendre. Il faut écouter avec tout son cœur, car il faut s'intérioriser à ceux qui nous parlent, pour suivre vraiment leur pensée avec tout ce qui la conditionne. Enfin, écouter vraiment, c'est écouter dans un parfait renoncement à son esprit propre et à toute théorie. Autrement, on n'écoute pas, mais on interprète et on transforme. Nous, évangéliques, nous avons d'énormes problèmes avec l'écoute. Parce que nous sommes persuadés que nous sommes par excellence le peuple de la parole. Et c'est vrai. Nous devons être le peuple des Écritures, de la parole de Dieu. Livre des certitudes. Je ne veux pas que vous ignoriez. Je veux que vous sachiez. Il en est ainsi. Que de certitudes dans ce livre. Face au questionnement permanent de l'humanité. Et pourtant, nous devons absolument
Et l'écoute occupe une grande place dans les Écritures. Nous devons absolument prendre beaucoup plus de temps pour l'écoute. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que qu'un des verbes grecs rendus en français par le mot « obéir », le plus fréquent d'ailleurs, plus de 400 ou 430 à 450 fois dans le Nouveau Testament, disons pour le mot écouter, n'est-ce pas, mais pour le verbe obéir, nous avons le mot écouter avec son préfixe qui signifie littéralement écouter en se plaçant dessous, vous voyez, hupakuo, je me place sous l'autorité de celui qui me parle. Et désobéir, c'est parakuo, c'est-à-dire que avec une dimension de mouvement, un sens de mouvement et d'éloignement. Je ne veux pas me placer ou rester sous l'autorité de celui qui parle, je m'en éloigne. Je ne veux pas me soumettre à l'autorité de celui qui parle. Mais tout tourne, même dans l'obéissance, autour de la qualité de notre écoute. Prenez dans l'Ancien Testament le livre du prophète Jérémie. Vous avez, je crois, au moins 140 passages qui utilisent le terme « écouter » et ses dérivés. Vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas écouté, je vous ai parlé, écoutez, prêtez l'oreille. Il y a même tout le style de la langue qui ressort avec des doubles répétitions, des triples répétitions. Jérémie est aux prises avec un peuple qui se refuse à écouter. Eh oui, parce que nous sommes le peuple des certitudes. Nous sommes tellement vite prêts à brandir la Kalachnikov des Écritures, n'est-ce pas, hein? On écoute et on a déjà le verset prêt pour asséner notre vérité, hein? Et puis généralement, on tombe à côté. Il suffit que nous ayons fait une découverte qui nous a fait beaucoup de bien dans les Écritures, pour que nous essayions d'appliquer cette découverte à tous ceux qui ont un problème. Comme autrefois à l'armée, tu as mal aux pieds, aspro, tu as mal à la tête, aspro, tu as mal au ventre, aspro. Hein? C'était le remède miracle à tous les problèmes. Nous avons cette tendance. Donc nous avons de la peine, y compris dans nos relations les uns avec les autres et dans nos relations conjugales, à écouter. Quand Jésus voulait expliquer quelque chose en particulier à ses disciples, il les prenait à part, et très souvent, notamment au niveau des paraboles, il leur disait ceci: écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. Et le verbe comprendre, là aussi, est un petit mot composé de deux parties, et quand on le traduit tel quel, cela veut dire être sous-entendu un avec. Écoutez et soyez un avec celui ou celle qui est en train de vous parler. Dit dans notre langage moderne, écoutez et identifiez-vous. Mettez-vous dans la peau de l'autre pour essayer précisément de comprendre pourquoi il réagit de telle ou de telle manière. Et ça, c'est d'une importance absolument capitale dans nos relations conjugales. Jules Renard a écrit ceci: la conversation est un jeu de sécateurs où chacun taille la voix du voisin aussitôt qu'elle pousse. Quelle vérité! Cette manière d'interrompre l'autre, hein. Si nous voulons savoir quelle est notre qualité d'écoute, essayons de réfléchir à ce problème. Est-ce que nous savons écouter quelqu'un jusqu'à ce qu'il mette un point dans ses phrases? Si nous avons tendance à interrompre en permanence, c'est que nous avons énormément de chemin à faire dans le domaine de l'écoute. Or, l'étroite relation privilégiée de la vie conjugale en permanence fait que nous sommes profondément tentés, parce que nous avons l'habitude de l'autre, de le couper constamment. Et rien n'est plus finalement, réfléchissons, rien n'est plus irrespectueux, même dans le couple, que cette manière de couper en permanence l'autre et de ne pas le laisser aller au bout de son raisonnement. L'auteur d'un best-seller sur la psychologie du mariage écrit ceci. 6 mois avant, il parle avec persuasion et elle écoute. 6 mois après, elle parle d'abondance et il écoute. 6 ans après, ils parlent tous deux en même temps d'une voix forte et ce sont les voisins qui écoutent. L'écoute est d'autant plus importante déjà dans la vie conjugale que les spécialistes en matière de communication signalent les obstacles énormes dans le domaine de la communication lorsqu'une personne adresse son message à quelqu'un d'autre. En réalité, plusieurs messages peuvent être transmis. Premièrement, ce que vous voulez dire. Deuxièmement, ce que vous dites réellement. Troisièmement, ce que l'autre personne entend. Quatrièmement, ce que l'autre personne croit entendre. Cinquièmement, ce que l'autre personne rapporte concernant ce que vous avez dit. Sixièmement, ce que vous croyez que l'autre a rapporté concernant ce que vous avez dit. Cela veut dire qu'il y a énormément d'interférences possibles et de subjectivisme possible. Vous savez combien dans un entretien, le regard de l'autre, la position de ses mains, de ses pieds, l'odeur qui se dégage éventuellement, les bâillements, etc. Il faut si peu pour perturber et modifier une communication. Vous venez d'avoir un coup de téléphone difficile à vivre. Immédiatement après, vous avez un entretien avec quelqu'un. Il est évident que votre communication va en être beaucoup plus sensiblement qu'il y paraît modifiée, si vous n'y prenez garde. À partir de là, donc, quelques suggestions d'ordre pratique. Si nous voulons partager, et si nous voulons nous écouter réciproquement, eh bien, il importe que nous prenions le temps de nous voir et de nous asseoir ensemble. Et j'ai pu le constater, aussi bien dans ma propre vie que dans l'expérience d'entretien avec des couples, c'est là un gros problème. Hein? Prendre le temps pour vraiment s'arrêter, s'asseoir ensemble et tranquillement partager. Au point qu'il m'arrive de temps en temps de conseiller à telle ou telle épouse dont le mari est insaisissable de lui chipper son agenda pour inscrire son propre rendez-vous qu'il va découvrir ensuite à sa grande stupéfaction. Mais peut-être qu'il faut en arriver là parfois. Inscrivez-vous dans l'agenda de votre mari, peut-être de votre épouse. C'est moins souvent le cas, mais comme hélas de plus en plus, pas toujours pour de bonnes raisons, mais parfois pour des raisons qui se justifient, la femme est appelée à travailler. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Le neveu du célèbre général américain MacArthur, Douglas MacArthur II, pendant la Deuxième Guerre mondiale, servit au département d'État à une époque où John Foster Dulles était secrétaire d'État. Et un soir, John Foster Dulles téléphone au domicile de MacArthur pour lui parler. Et il tombe sur sa femme qui lui explique que son mari n'est pas là. Et comme elle ne reconnaît pas celui qui appelle, elle entre en colère et elle dit avec une certaine violence à ce monsieur, « MacArthur est là où il se trouve toujours, la semaine, les samedis, les dimanches et les soirs, dans ce foutu bureau !» Quelques minutes plus tard, Foster Dulles téléphone à MacArthur au bureau et lui donne un ordre brusque. « Rentrez chez vous sur le champ, jeune homme, le front domestique est en train de s'écrouler. » Mais le renouvellement de l'amour, l'approfondissement de l'amour, la qualité de nos relations conjugales est à ce prix. Il n'y a pas de grand secret. Prendre le temps, quelque chose qui me touche de très près, un conférencier du 19e siècle, Wendell Phillips, qui était très dévoué à son épouse invalide. Ses conférences, toutefois, l'obligeaient souvent à être loin d'elle. Et un soir, au terme d'une conférence qu'il avait donnée dans une ville située à un certain nombre de kilomètres de chez lui, les amis de Phillips le pressent de ne pas tenter d'entrer chez lui avant le matin. Ils disent, vous savez, le dernier train est parti, vous seriez obligé de payer un transport spécial en ville, il fait froid, la chaussée est glissante, la route est longue et difficile. Et cet homme de Dieu de répliquer, mais au bout de ces interminables kilomètres, je retrouverai mon épouse bien-aimée. Rien n'est plus fort que l'aiguillon de l'amour pour nous conduire à accepter de faire des choses que l'on ne ferait pas autrement parce qu'on a le désir d'être auprès de celui ou de celle qu'on aime. Prendre le temps de se voir, c'est-à-dire savoir aussi travailler ensemble, même à la vaisselle, à la cuisine, partout où il est possible de cheminer côte à côté, d'échanger. Écouter la bouche fermée, ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure. Épictète, ce philosophe stoïcien à cheval sur le 1er et le 2e siècle, a écrit ceci, Dieu a donné à l'homme deux oreilles, mais une seule bouche, pour qu'il puisse entendre deux fois plus qu'il ne parle. Dire non au serment solution. Et c'est vrai que ça aussi c'est une habitude évangélique, peut-être même plus forte chez les prédicateurs, je dois faire très attention. Le conjoint a souvent peur de ne pas être compris, d'être rejeté, d'être condamné, de recevoir simplement un sermon ou d'entrer dans une situation de discussion avec de forts arguments. Et là, les hommes ont souvent un gros problème avec les dames. Quelqu'un écrit « L'homme est bien moins doué pour le dialogue que la femme. Il le confond généralement avec la discussion. » La discussion vise, même dans les joutes académiques, à vaincre l'adversaire. Le dialogue véritable cherche à le comprendre. Et les solutions ne se trouvent que lorsque chacun se sent compris. Sinon, ce n'est qu'une pause en attendant la revanche. L'homme est objectif et l'objectivité toujours analyse et sépare. C'est la subjectivité qui conduit à la synthèse et à l'union. Et nous l'avons vu ensemble, les femmes sont plus douées que nous pour le contact personnel, pour la vie affective, pour l'attention concrète aux besoins de chacun. Et nous, hommes, nous devons faire attention. Surtout si nous avons l'habitude dans notre profession d'argumenter, de discuter, dans le domaine technique, de raisonner, de ne pas développer une sorte de mépris à l'endroit de notre épouse parce que son approche du dialogue est différente de la nôtre. Il est facile de considérer qu'elle n'est pas à la hauteur parce qu'elle ne va pas se lancer dans ces discussions où les arguments vont fuser et où chacun va essayer absolument de marquer des points. Il y a pas mal de souffrances, j'ai remarqué, dans le monde féminin, liées surtout aujourd'hui, dans notre monde technique, économique, avec tout ce qu'il signifie comme rigueur, comme bataille terrible. Il n'est pas rare que les épouses dans le foyer souffrent de ces déformations professionnelles et se sentent quelque peu méprisées. Écoutez jusqu'au bout celui qui répond avant d'avoir écouté fait acte de folie et s'attire la confusion. Proverbe 18, 13. Pas de non péremptoire, chacun donne son avis. Tu n'y comprends rien. Hein? Rien de tel pour couper l'herbe sous les pieds de la suite du partage. Donner à l'autre toute son attention, c'est-à-dire dans la mesure du possible ne rien faire d'autre en même temps. Et il y a des moments où la dame doit accepter de quitter son tricot. Pourquoi ? Parce que, nous l'avons vu, la femme a la capacité de faire beaucoup plus de choses généralement que l'homme en même temps. Ma femme est championne du crochet, et d'ailleurs l'an dernier, ceux qui étaient ici l'ont vu crocheter en permanence, pas crocher du gauche, crocher du droit, bien entendu, mais enfin, elle aime cela. Et il y a des moments où... Je dirais par amour pour monsieur cette fois-ci. L'épouse doit laisser le crochet, laisser sa petite activité. Il y a là, comme toujours, des concessions à faire de part et d'autre. Choisir un cadre agréable. Nous avons vu combien cela est important, en particulier, là encore, à cause de l'identité féminine. Le cadre a beaucoup d'importance, un cadre agréable est très important pour un entretien. Ne pas se fâcher lorsqu'on n'est pas d'accord, et ça c'est un de nos drames évangéliques. Quand nous cessons d'être d'accord avec quelqu'un, nous le secouons comme un prunier. Au nom de la vérité ! Et alors nous péchons contre l'amour. C'est vrai que nous pouvons être fermes. C'est vrai que dans ces situations, certaines situations, nous pouvons être indignés. Mais Dieu ne nous autorise pas à manquer d'amour parce que nous devons prendre position. Et dans la vie conjugale, il en est de même, il est si facile de se disputer parce que je ne suis pas d'accord. Je suis tellement en malaise de ce que nous ne soyons pas sur la même longueur d'onde, ça me semble tellement insupportable, je ne veux pas le vivre plus longtemps parce que je serai assis entre deux chaises, alors j'essaye de remporter le prix en haussant le ton, en m'impressionnant, je deviens dur. Et ça n'arrange rien. Apprendre à prier ensemble, vous savez que quand on prie ensemble, le regard change sur la situation. S'attaquer au problème et non au conjoint, parce que aussi c'est un de nos problèmes. Ces attaques contre la personne. C'est le problème qui doit être résolu. Ce n'est pas la personne en elle-même qui doit être attaquée. Mais combien facilement, finalement, nous utilisons des arguments ad hominem, des arguments qui visent la personne elle-même, et nous cessons de considérer le problème. Et puis, et là c'est aussi une chose importante, ne pas céder à la tentation d'un nudisme aussi dangereux qu'inutile dans le partage. La transparence n'équivaut pas dans la pensée de Dieu, dans les Écritures, à une sorte de naturisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Certains couples, et d'ailleurs parfois dans l'enseignement, il y a cette erreur, certains couples pensent qu'être transparent, c'est absolument tout partagé avec l'autre. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. C'est beaucoup partagé avec l'autre. C'est partager ce qu'on partage au bon moment et de la bonne manière. Parce qu'il y a un moment pour partager, il y a un moment pour parler, un moment pour se taire. Et puis c'est la manière de le partager. Vous voyez, il y a toute une série de paramètres, mais j'insiste, ce n'est pas tout partagé. Il y a d'ailleurs un premier aspect qui tombe sous le sens. Imaginez que sans l'autorisation des amis avec lesquels j'ai eu un entretien tout à fait privé, secret, et que sans leur autorisation, je rentre à la maison pour raconter tout le contenu de ces entretiens à mon épouse, sous prétexte que dans un couple, il faut tout partager. Seriez-vous d'accord? Je peux même être attaqué en justice. Il existe des lois qui me concernent concernant le secret professionnel. De la même manière, si mon épouse reçoit des confidences dans un entretien personnel avec une sœur, une personne, je dois respecter ce silence de la fidélité à des engagements. Et cela voudra dire que, dans la mesure où j'aimerais partager avec le conjoint, à l'issue de certains entretiens, je dois en demander l'autorisation. Est-ce que vous m'autorisez à partager ceci avec mon épouse ou avec mon époux? Et si l'autre dit non, eh bien on le respecte. Voilà un exemple qui tombe sous le sens. Mais il y en a d'autres qui devraient tomber sous le sens. Imaginez quelque peu que l'un d'entre vous, mal disposé à l'égard de mon épouse, c'est une situation qui heureusement n'existe pas, me disent des choses extrêmement désagréables concernant mon épouse. Croyez-vous qu'en rentrant à la maison, dans un moment de partage, dans un cadre agréable, je vais lui dire, tu sais chérie, un tel à Isenfo m'a dit à ton sujet des choses que je tiens absolument à te répéter puisqu'on s'aime et qu'on partage. Croyez-vous que je vais donner la main au diable pour déstabiliser, pour blesser, pour faire un mal absolument gratuit à mon conjoint, sous prétexte de transparence? Alors attention à ces livres évangéliques, parfois, dans lesquels il dit qu'il faut tout vous dire. Ah non, non. Il faut partager au maximum. Mais là aussi, il faut faire passer ce que nous désirons partager au crible, en quelque sorte, de notre relation avec Dieu, en disant, Seigneur, est-ce que tu crois que ça, c'est quelque chose à dire? Est-ce que ça va aider à quelque part, ou est-ce qu'au contraire, je vais infliger une blessure absolument inutile parce que telle personne a été maladroite, ou jalouse, ou je ne sais quoi, n'est-ce pas? Donc, pas de nudisme. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a la franchise abrupte et sans délicatesse. Il y a des gens dans l'église de Jésus-Christ qui se vantent d'être francs. Moi, au moins, je vis dans la lumière. Je suis franc. Et avec ça, ces personnes s'appellent Monsieur ou Madame Guillotin. Hein? On coupe les têtes. Avec allégresse. Je suis franc, voilà, je te rentre dedans. Au nom de la vérité, au nom de l'honnêteté, au nom de l'intégrité, au nom de la droiture, au nom de la vie dans la lumière. Non? Pas d'accord? Parce que l'amour est courtois. Il est plein de délicatesse, il est plein de tact. Pas de franchise brutale. Et puis, je le dis au passage, il faut parfois savoir ravaler un dépit dans un échange et ne pas manifester une irritation de réaction. Proverbe chapitre 12, verset 16. Proverbe chapitre 12, verset 16. Oui, il nous est dit, l'insensé laisse voir à l'instant sa colère,
Mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Ne pas laisser voir à l'instant sa colère. Et ça, c'est parfois difficile, hein, parce que certaines personnes, plus que d'autres, sont un livre ouvert. Hein, on peut tout lire sur le visage. Ce n'est pas de l'hypocrisie que de ne pas réagir tout de suite, même quand quelque chose nous trouble profondément. C'est être sage. Il est question de l'insensé ici. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère. Et il y a bien des choses dans un entretien qui peuvent déplaire, qui sont même parfois complètement fausses, mais qu'il faut parfois d'abord laisser passer, même si elles sont injustes. On aura l'occasion, souvent plus tard, peut-être d'y revenir à un autre moment ou dans la suite de l'entretien, mais on aura encaissé le choc intérieurement, mais sans réagir à l'endroit de l'autre. Et j'ai relevé très récemment cette remarque d'un poète qui écrit ceci: si vous voulez que votre mariage déborde d'amour, chaque fois que vous avez tort, reconnaissez-le. Chaque fois que vous avez raison, taisez-vous. Parce que quand on a raison, en général, on est tellement heureux de marquer des points. Hein. Je te l'avais bien dit, hein. C'est-à-dire que on fait de notre partage une joute avec un vainqueur et un vaincu. Et vous savez que dans nos relations d'église, dans les conflits d'église, c'est très souvent comme ça. Au lieu de se placer sur un terrain où on veut que Dieu soit vainqueur, même si de part et d'autre on y perd des plumes, on pense toujours devoir aborder des conflits comme deux coqs. Hein. C'est à celui qui réussira à vaincre l'autre et qui pourra lui dire « Tu vois bien, j'avais raison !» Mes amis, je crois que ça, on peut le laisser. C'est inutile. Ça fait plus de mal que de bien. Un jour, donnant un séminaire sur l'organisation pratique du temps, un couple est venu vers moi, c'était d'ailleurs de chers amis qui avaient été stagiaires dans l'église où j'étais pasteur, et ces amis m'ont raconté une histoire très intéressante dont ils avaient été les témoins. C'était un couple de leurs amis qui avait l'habitude de manger de la crème anglaise depuis 20 ans, tous les dimanches. Alors c'était le rite, d'ailleurs un rite de mon enfance aussi, où le dimanche c'était le rite de la crème anglaise. Et l'épouse donnait, vous savez, la peau, quand la crème anglaise refroidit, vous avez une peau dorée au-dessus, on l'aime ou on ne l'aime pas, n'est-ce pas? Et l'épouse donnait la peau à son mari régulièrement, persuadée que son mari l'aimait beaucoup. Puis de temps en temps, c'était le mari qui servait. Et quand le mari servait, il prenait la peau qu'il n'aimait pas, mais il était persuadé qu'elle ne l'aimait pas non plus, que c'était à cause de cela qu'elle la lui donnait. Alors qu'en réalité, elle en raffolait. Vous voyez, tout était à l'envers. Et c'est au bout de 20 ans, dans un moment de partage, qu'enfin, ces deux se sont rendus compte combien ils souffraient mutuellement en mangeant quelque chose qui leur était profondément désagréable. Bon, c'est une petite illustration, mais parfois c'est pour des problèmes bien plus graves que cela. Voilà donc pour ce qui est du partage et de l'écoute. Dans mon livre donc sur Barnabas, vous lirez pas mal à ce sujet parce que Barnabas avait une oreille tellement extraordinaire qui encourageait beaucoup. Alors toujours dans ce cadre, et c'est par là que nous terminerons ces études, il importe que nous ayons la volonté d'exprimer notre amour avec beauté. Nous l'avons dit en introduction. Nous refuser de nous installer dans l'habitude du mariage. Nous aimer concrètement. Je bénis Dieu, et d'ailleurs, j'ai essayé tant soit peu d'en faire la démonstration. Je bénis Dieu de ce qu'un livre de la Bible soit consacré à un hymne à l'amour conjugal. Quelles que soient les leçons spirituelles qu'il renferme concernant les relations d'Israël avec son Dieu, ou pour nous, en application néo-testamentaire, mais en respectant la vocation unique d'Israël, les relations du croyant avec son Dieu, de l'Église avec son Dieu. Au-delà de toutes ces applications spirituelles, disons-le, ce livre est d'abord un hymne à l'amour, et à l'amour pur et vrai, avec tous les combats qu'il a amenés contre des rivaux, ou ceux qui veulent pénétrer de l'extérieur, ceux qui veulent faire concurrence, etc. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les différentes théories d'approche du Cantique des Cantiques, mais peu importe, quelles que soient ces théories, il est un hymne à la monogamie et aux qualités d'amour conjugal. C'est donc un livre à lire, qui est très beau, qui est, je dirais, très pur, et qui rejoint le Nouveau Testament, n'est-ce pas, dans Éphésiens 5, 25 à 33, que nous avons lu plusieurs fois. Il nous est dit que pour le mari, qu'il doit donc aimer sa femme. Et nous l'avons vu, aimer ici, c'est agapao, l'amour volontaire. L'amour au niveau de la pensée et qui se traduit en acte. C'est intéressant que ce soit d'abord dit au mari. Le mari doit aimer non d'une impulsion soudaine qui proviendrait de ses sentiments, il doit aimer d'un amour volontaire, d'un amour qui va à l'encontre de ses penchants naturels. Je comprends pourquoi ce soit ce verbe qui soit utilisé pour le mari. Alors que, c'est intéressant, dans Tite 2, 4, il est question des jeunes femmes qui doivent apprendre à aimer leur mari et leurs enfants. C'est dit donc aussi. Il n'y a pas d'exclusivité du côté masculin. Et pourtant, il y a une différence. Parce que quand il est dit dans Tite 2, 4 que les jeunes femmes doivent apprendre à aimer leur mari, ce n'est pas agapao qui est utilisé, mais un autre verbe grec, l'un des trois verbes grecs du Nouveau Testament concernant l'amour, c'est philéo, qu'on retrouve dans Théophile, etc. Et philéo est en quelque sorte un aspect, une expression, non pas le fondement, non pas la racine de l'amour, mais une expression de l'amour, c'est-à-dire son expression affective, son expression émotionnelle, sentimentale. Et donc Dieu dit à la femme, apprenez à être amoureuse de votre mari, apprenez à avoir une tendre affection pour votre mari. C'est intéressant parce qu'il est dit avoir une tendre affection pour votre mari et vos enfants. Ça veut dire qu'il y a un ordre là. Aimez votre mari affectueusement avant d'aimer vos enfants. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le problème de la femme. Si nous avions vécu toute une série d'études sur l'éducation des enfants, nous l'aurions dit. Le problème de la femme quand elle est maman, c'est sa facilité à déverser son amour sur les enfants en leur donnant la première place. Ceci d'autant plus si elle a des difficultés relationnelles avec son mari. Elle va être tentée de déverser tout son amour et devenir même parfois très possessif à l'endroit des enfants. Et nous devons toujours nous souvenir que dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, c'est l'amour conjugal qui prévaut. Amour conjugal qui repose, c'était notre introduction vendredi dernier, sur la qualité d'amour vertical. N'est-ce pas ? Les relations de couple, ce sont des relations triangulaires. amour horizontal, parce que chacun a une relation intime avec Dieu, et c'est à l'intérieur de ce triangle que les enfants sont à l'abri. Le problème, c'est quand les enfants commencent à interférer et à venir sur le pourtour. C'est de la qualité de notre relation d'amour et de nos rapports, de notre écoute réciproque, de notre partage, de notre travail d'équipe dans le couple, que va dépendre la qualité de notre amour pour nos enfants. Et là, il y aurait tant d'autres choses à dire sur les réflexes des hommes qui, quand ils ont encore maman, sont tentés d'aller vers maman. Il y a toutes sortes de réactions, d'attitudes, de fuites, n'est-ce pas? Quand il y a des problèmes conjugaux, chacun est tenté de reporter son affection, ou par désir de recevoir, dans une autre direction, comme nous venons de le voir. Ce que nous disons ici quant à l'expression de l'amour est très important dans le monde tellement froid et technique d'aujourd'hui. Quand j'étais responsable d'église en Bretagne, donc dans l'ouest de la France, pendant une dizaine d'années, nous avions plusieurs enseignants dans l'église qui de temps en temps me rapportaient des anecdotes de ce qu'ils vivaient dans leur classe. Et je me souviens de cet instituteur qui avait intercepté un billet que Franck envoyé à Marie-Pierre dans la classe. Et c'était très amusant parce que sur ce petit billet qu'il m'a montré à l'époque, il y avait une question, la grande question fondamentale de l'existence, semble-t-il, est-ce que tu m'aimes ? Mais ce qui était intéressant, c'était la suite. Il y avait deux fenêtres, deux carrés ou deux rectangles. À l'intérieur du premier, il y avait le mot « oui ». À l'intérieur du second, il y avait le mot « non ». Et à côté, « barrez ce qui ne convient pas ». Et puis ensuite, « si tu m'aimes, écris ce que tu veux, là, deux points, et puis des traits ». Vous voyez, cette déformation du monde d'aujourd'hui, j'aurais pu vous parler de l'église de la vie universelle en Californie qui comptait déjà il y a une quinzaine d'années 11 millions de membres, qui avait ordonné prêtre un mini ordinateur qui célébrait les mariages à la place du révérend. C'était le révérend Apple manipulé par un autre révérend dont j'ai le nom. Et cet autre révérend qui baladait son révérend Apple demandait $500 pour une cérémonie de mariage, plus $23 pour que l'appareil crache l'acte de mariage authentifié. Et tout se faisait, n'est-ce pas, entre l'ordinateur et les futurs monsieur et madame. C'est très très peu poétique, à vrai dire. Et ce que nous disons là est très important par rapport à la sensibilité de la femme. Nous l'avons dit, sensibilité de la femme par rapport à la parole. Elle est sensible à ce qui est dit. Et de surcroît, elle a un besoin primordial, le plus immédiat, un besoin de tendresse. Tout ça appartient à son identité, liée aussi à sa vocation maternelle. Il faut dire qu'elle doit donner beaucoup dans ce domaine. Et donc, quelqu'un a écrit ceci, la femme, dans son besoin de tendresse, attribue à ce seul mot une portée psychique absolue. Qu'elle l'aperçoive dans le ton dont il use pour lui dire bonjour le matin, dans le regard dont il accompagne ses gestes d'attention à la table du petit déjeuner, au mouvement qui le porte à se mettre devant elle pour la protéger. La tendresse dont la femme est avide ressemble à un manteau invisible dont l'enveloppe son aimé et dans les plis duquel elle se sent à l'abri. La tendresse, en un mot, c'est tout ce qui lui donne auprès de lui le sentiment d'être à la maison. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Proverbe 5, versets 15 à 19. Hein? Ces jolis mots doux, utilisés même dans toute la zoologie animalière, la gazelle est là, la biche des amours. Réjouir sa femme, Deutéronome 24, verset 5. Nous avons lu cette semaine Proverbe 31, 28. Son mari et ses fils se lèvent devant elle. Mais mes amis, est-ce que ce n'est pas dommage et pénible de voir combien nos relations familiales manquent de courtoisie? Il semble que parce qu'on vit ensemble sous le même toit, il ne soit plus nécessaire de se dire « merci, s'il te plaît, de faire passer l'autre devant ». Ben non. Et pourtant, tous ces petits mots, tous ces petits gestes, c'est l'huile dans les rouages de la vie familiale. Et il est regrettable que dans trop de foyers chrétiens, et qui sait si j'en visite, cette huile est pratiquement totalement disparue. Parce que nous n'apprenons plus non plus à nos enfants à dire merci. Que de foyers chrétiens dans lesquels le s'il te plaît, les merci et toutes ces autres petites délicatesses ont totalement disparu. Et mes amis, c'est grave. Parce que ça signifie déjà qu'au niveau du couple, ça ne marche pas dans ce domaine. Un couple dans lequel on a l'art de la courtoisie, c'est aussi un couple qui va apprendre aux enfants à être courtois les uns avec les autres et dans leur relation avec les parents et puis ensuite au-delà. Proverbe chapitre 2 verset 17, il est question de l'ami de sa jeunesse. Tu as été infidèle à l'ami de ta jeunesse. Est-ce que nos relations de couple sont des relations d'amitié? Est-ce que mon conjoint est mon plus grand ami? Ma plus grande amie? Malachie 2,14 que nous avons lu aussi, où il est question de la femme de ta jeunesse et de ta compagne, terme maintenant galvaudé, autrefois j'osais dire que ma compagne était restée à la maison, c'est quelque chose que je ne fais plus du tout. Hélas, parce que le mot compagne a pris un nouveau sens que je ne peux pas accepter. Néanmoins, il est dans les Écritures, il évoque la relation à l'intérieur du couple, et je vous signale simplement que le mot compagne en hébreu évoque l'intimité, le compagnon est un ami intime avec qui l'on partage tout, en bien et hélas aussi en mal. C'est-à-dire que parfois le mot compagnon ou compagne peut être utilisé dans le sens de ceux qui sont bons larrons en foire pour faire du mal. Mais bien sûr, la compagne de l'Alliance, c'est autre chose. Hein. C'est cette amie avec laquelle je vais pouvoir vraiment partager les petits mots doux. Mon épouse devrait être ma meilleure amie. C'est beau de voir l'autre de cette manière. Hein. De la même manière que nos enfants, quand ils arrivent à un certain âge, même si nous restons toujours leurs parents, auxquels ils devront respect, honneur, jusqu'à ce que la séparation intervienne par le décès, mais auxquels ils ne devront pas obéissance pendant toute leur vie, c'est pas la même chose. Hein? Honore ton père et ta mère, ça ne veut pas dire obéir à ton père et ta mère durant toute ton existence. Il arrive un moment où l'obéissance cesse, mais où l'honneur demeure. que pendant toute ta vie, tes parents aient du poids dans ta vie. Considère qu'ils ont du poids dans ta vie. Eh bien, dans nos relations avec nos enfants, il arrive un moment où, bien que ce soit encore des rapports de parents-enfants, ils deviennent aussi nos amis. Moi, j'ai des amis à la maison. Ce sont nos enfants. Et il m'arrive de dire à notre dernier garçon, tu sais, tu es mon ami. Tu es mon frère en Christ, puisque tu connais Christ, mais tu es mon ami. Plus il grandit, plus les rapports doivent évoluer, et plus on se place dans une toute nouvelle relation avec ces nouvelles richesses. Importance donc, et nous terminons avec cela, importance des petits cadeaux, de la tendresse, des mots doux, des surprises. C'est bien les cadeaux, le jour de l'anniversaire. Je dirais que jusqu'à un certain point, c'est encore mieux quand c'est en dehors des moments de fête. Rien n'est plus doux et bienfaisant que le cadeau qui vient quand on ne l'attend pas. Quand vous entrez dans votre bureau ou dans votre chambre à coucher et que vous voyez sur une table, sur un meuble, le petit mot doux, ou le petit cadeau qui fait plaisir au moment où on ne l'attend pas. Ça fait partie de tous ces petits gestes, ciment d'unité, d'amitié, à l'intérieur du couple. C'est ces petits billets qu'on peut laisser au lever quand on part au travail, alors que l'épouse est peut-être encore en train de se reposer, et on profite de ce qu'elle a encore les deux yeux fermés, parce que bientôt il y en a un qui va commencer à guetter, pour glisser le petit mot qu'elle trouvera tout à l'heure quand on sera loin. Et vous savez, les enfants apprennent à le faire aussi. Moi, je suis très touché de ce que, ici et là, assez souvent même, je trouve des petits mots de tel ou tel des enfants disant « Papa, je t'aime ». Ça fait du bien. Ça change nos relations, les uns avec les autres. À cause des difficultés financières, nous avons vécu, mon mari et moi, plusieurs mois éprouvants. Aussi, quelle émotion de le voir un soir contempler la bague en diamant qui symbolisait notre mariage. Avec cette bague, commençais-je sur un ton romantique, c'est la femme qui parle, nous pourrions payer nos factures, conclut-il. Il n'avait pas compris. Et c'est si vite fait de ne pas comprendre. Nous sommes mariés depuis longtemps et mon mari a parfois besoin de se faire gentiment rafraîchir la mémoire. Le jour de notre anniversaire de mariage, je fis une tentative pendant le petit déjeuner pour le mettre sur la voie. Te rends-tu compte, chérie, que cela fait 35 ans, jour pour jour, que nous nous asseyons tous les matins sur ces mêmes sièges ? Il abaissa son journal et me regarda droit dans les yeux. Tu veux qu'on échange ? Les sièges. Fêter les anniversaires. Vous savez que nous avons pris cette sainte habitude, mon épouse et moi, de fêter notre anniversaire du mariage, non pas une fois par an, mais tous les 10 du mois. Tous les 10 du mois, nous nous souhaitons un joyeux anniversaire de mariage. Ce n'est pas un anniversaire. Mais puisque c'est un 10 du mois, que nous nous sommes mariés, tous les 10, on se regarde, et c'est parfois au premier qui dira à l'autre, demain c'est les 10. Ça fait partie de ces choses. Pour notre 25e anniversaire de mariage, nous avons vécu un moment de fête extraordinaire, où d'ailleurs, mon épouse m'a obligé, et nos enfants m'ont obligé à monter dans une voiture, les yeux bandés. Elle a pris le volant, pendant qu'un autre couple qui avait 35 ans de mariage faisait cela avec nous. Mais lui venait d'une autre direction, le mari les yeux bandés. Et ces deux épouses avaient organisé un truc. Elles nous ont amenés dans la cour d'un château, tenu par l'armée du salut, rassurez-vous, un bon château. Et là, on nous a débandé les yeux. Et puis on a vu un tas d'invités qui étaient de proches amis. qui étaient venus parfois de très loin, même de l'étranger. Nous avons vécu un moment extraordinaire et puis, vous voyez, j'ai une alliance, mais elle est très particulière. C'est la deuxième. La première, nous l'avons mise pendant 25 ans, elle est toujours là, en bonne place. Mais comme nos doigts ont quelque peu grossi, nous avons décidé de faire un nouvel échange d'alliance en présence de nos amis pour nos 25 ans. Et donc, publiquement, après nous être offerts chacun une alliance en ayant regravé à l'intérieur nos dates et nos prénoms, nous avons vécu une petite cérémonie avec ces amis dont certains n'étaient pas croyants pour, en quelque sorte, continuer dans la marche d'une nouvelle alliance, n'est-ce pas, notre chemin ensemble. Et puis ensuite, eh bien, quelques temps plus tard, grâce à la générosité de nos enfants et de tous ces amis, nos deux couples, nous sommes partis au Liban et en Syrie pour quelques semaines qui ont été extraordinaires. Nous avons vécu ensemble, simplement, à deux couples. Toutes ces choses tissent et consolident les liens de notre mariage. Alors, attention aux maladresses dans ce domaine. Je pense à ce mari et cette femme dont le mariage était ruiné. Le mari ne se souvenait jamais des fêtes ou des anniversaires, il se plaignait toujours. Sa femme se décourageait de plus en plus et un jour, pris de remords, le mari décide de manière inexplicable d'apporter quelques fleurs à sa femme. Alors il arrive avec un bouquet et pour lui faire une surprise, au lieu d'entrer, il sonne à la porte. Elle vient ouvrir, elle voit son mari un bouquet de fleurs à la main et elle entre dans une espèce de sanglot hystérique en essayant d'expliquer, mais vraiment de manière hystérique, « C'est pas possible, je viens de brûler du linge avec mon fer à repasser, la machine à laver a débordé, j'ai eu des factures épouvantables. » Alors, elle accumule tous les problèmes qu'elle avait eu dans la journée, et au bout du compte, elle dit, « Et maintenant, toi, chérie, tu rentres ce soir et tu es ivre !» Elle ne pouvait pas comprendre qu'il arrive avec un bouquet de fleurs et il ne pouvait qu'être ivre dans cette situation. C'était tellement inhabituel. Alors, évitons l'électrochoc, hein, il ne s'agirait pas qu'il y ait infarctus ou transport au cerveau tellement nos gestes sont inhabituels. Alors il faudra peut-être aller à dose homéopathique d'abord pour que ce soit supportable. C'est Victor Hugo qui a dit « Il y a des gens qui vous laissent tomber un pot de fleurs sur la tête d'un cinquième étage et qui vous disent « Je vous offre des roses ». Mettons-y aussi la forme. Et je termine avec le livre des records. Madame D, je ne sais pas laquelle, a battu le record du sourire en souriant à tous les propos de son mari pendant 10 jours, 4 heures, 3 minutes, 2 secondes et 4 cinquièmes, la performance a été interrompue par un mari exaspéré. Alors, chers bien-aimés, vous et moi, nous avons du pain sur la planche. Mais au moment où nous allons nous quitter, nous avons pleine conscience dans un Dieu fidèle qui, quand il a commencé une œuvre dans nos vies, la poursuit parce qu'il désire la mener à son plein achèvement. Si simplement ce que nous avons partagé était discours humain, je ferais autre chose. Mais parce que Dieu est dedans, nous savons aussi qu'il va continuer son travail. Et si nous avons quelque angoisse, en nous disant, mais Seigneur, qui peut suffire ? Souvenons-nous que lui seul suffit et qu'il a la capacité de nous aider, de nous encourager, de nous porter, de nous fortifier. Qu'il ne manquera pas de nous rappeler au bon moment ce que nous aurons oublié entre-temps. Nous avons un Dieu extraordinaire. Je lui fais pleine confiance pour prendre la suite de nos vies avec lui entre ses mains. S'il nous a amenés ici, ce n'est pas pour nous laisser tomber, au-delà, n'est-ce pas? Donc, courage, il continue son œuvre, il veut continuer à construire, mais n'oublions pas que la construction passe par la croix. Sachons venir à la croix, sachons demander pardon, sachons aller vers l'autre, sachons reconnaître notre orgueil, notre besoin de lui, et nous irons loin, loin avec lui, jusqu'à ce que, là-haut, nous reparlions de ces choses. Mais ce sera alors un autre discours dans la joie et la félicité éternelle.